Alors, l'autre, juste derrière. Vous allez tous
Ouais.
bien, non?
Ça va.
Moi, j'ai des problèmes de morale ou d'éthique, je ne sais pas très bien. Je suis bénévole à la Croix-Rouge, j'interviens au sein d'un EHPAD.
Oui.
Et ils crient au secours.
Oui.
J'avais dit que j'irais les aider. Et j'ai dit que je ne pouvais pas. Parce que j'ai un mari plus âgé que moi, j'ai des parents âgés et j'ai demandé l'avis de plein de personnes et les gens m'ont dit c'est pas ta place. Du coup, je sais pas si c'est pas ma place ou s'il faut vraiment que j'y aille. Et donc, il y a une heure, j'ai encore reçu un message au secours.
C'est où cette Croix-Rouge?
Dans la banlieue ouest.
Ah oui, je ne vais pas aller là.
Donc, ils cherchent des soignants. Et je suis soignante.
Bah,
je suis aussi mariée et mère de famille.
Oui, bah, vous êtes dans le cadre de beaucoup de soignants qui sont mis à contribution et vous pourriez, c'est légitime que vous posez la question, oui, c'est légitime. Après, c'est difficile de, vous ne pouvez pas commencer une décision à prendre en conscience, et, mais avec la, après avoir consulté l'avis de vos proches. Parce qu'évidemment, le fait d'y aller en ce moment, c'est peut avoir des conséquences, comme vous l'avez suggéré. Et vous pourriez prendre une décision seule là-dessus, mais je trouve que si vous voulez, pour les soignants qui sont ordinairement impliqués, j'allais dire qu'ils ne se posent même pas la question, surtout en ce moment, mais pour les personnes qui souhaitent apporter un effort supplémentaire et contribuer à l'effort supplémentaire de tous pour aider, c'est difficile de prendre la décision seule, à mon avis. C'est mieux de la prendre avec vos proches pour qu'ils puissent assumer avec vous cette décision. Parce qu'elle peut avoir différents effets, oui.
Du coup, j'ai pris la parole un peu vite là.
Oui, ben,
est-ce qui m'habite
on est
depuis
parti. On attend d'autres.
On peut peut-être y aller. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Bah, oui.
Au bout de 40 minutes, stop.
Oui.
Ça va tout seul.
Bon, alors peut-être que je peux dire un petit mot de Laurent parce que vous ne vous êtes jamais rencontrés en fait.
Non.
Donc Laurent, ça fait plusieurs années. Qui donne la première grosse partie du cours de morale au CIF. Donc, c'est un habitué. Et donc, le cours d'éthique, il se déroule en deux parties. Il y a d'abord ces six séances avec Laurent, qui est psychanalyste aussi, qui a beaucoup écrit sur les questions de morale, notamment ton dernier livre sur les abus qui est sorti cette année, qui s'appelle « Désabuser ». Qui a écrit un dictionnaire d'éthique, enfin vraiment quelqu'un qui cherche sur ces sujets-là et qui va nous introduire vraiment au fondement de la morale. Et je pense qu'à travers son cours, on va forcément aborder des questions voilà, très, très actuelles aussi. Et puis la deuxième partie, ce sera avec Bernard Clazen, notre nouveau directeur, donc, et Bruno Girard, qui est diacre. Et ils vont faire un cours à deux voix sur Laudato si, donc vraiment sur des questions d'éthique sociale et collective, avec deux éclairages qui seront la finance et l'écologie à partir de Laudato si. Voilà, donc Laurent, il débroussaille, il pose un peu des repères et puis il nous aide à réfléchir. Et voilà, et vraiment, je redis encore pour ceux qui n'étaient pas là, je sais que c'est un gros effort pour toi, Laurent, d'être là.
Ah, je ne suis pas habitué, hein, mais.
Voilà, on peut beaucoup remercier Jean-Yves à gauche, là-haut.
Oui, merci à Jean-Yves. Oui,
parce que vraiment grâce à lui qu'on a réussi à le monter.
Voilà, voilà.
Et Jean-Yves étant étudiant en première année, en fait, mais vraiment, il nous a rendu un grand service.
Deuxième.
Voilà.
En deuxième année. Pardon. Et ensuite, vraiment encourager ceux que vous connaissez dans les groupes ou dans vos amis du CIF à essayer, parce qu'on s'en fait une montagne, mais c'est pas si difficile. Et franchement, c'est toujours un bon moment de se retrouver là. Donc, faites-le savoir et essayez de ramener un petit peu de monde. Voilà.
Ah, on me dit que ma connexion Internet n'est pas bonne. J'espère que ça ne va pas couper. Mais...
Ah, on vous voit.
On vous voit et on vous entend.
Oui. Bon. Oui. Alors, on a une demi-heure, du coup, là, c'est ça, puisqu'il est 14h10, on a une demi-heure, oui. Écoutez, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, parce que, donc, moi, je vous ai donné une sorte de cours synthétique, si vous voulez, pour faire un petit peu mieux qu'introduire aux questions d'éthique. Et puis, donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil. Et peut-être qu'on peut essayer de réagir à ce que je... Et d'interréagir, comme on dit, à ce premier texte.
Hein. Alors, j'ai lu le cours, effectivement, et j'ai une question. Et je me permets de la poser d'abord, parce que je pense qu'elle est fondamentale. J'ai lu avec intérêt votre définition de l'éthique et de la morale. Vous pourriez donner un exemple à chaque fois ?
Ah oui.
Qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que la morale ?
Oui, oui, oui. L'exemple le plus simple que je moi-même pas relu ce que j'ai écrit, mais je m'en souviens à peu près. L'exemple le plus simple de la morale, c'est le code de la route. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de dire que la morale est du côté de la loi et de la norme. Donc, dans la vie quotidienne, par exemple, c'est l'attestation de sortie de dérogatoire. Hein. La morale, c'est ça. C'est-à-dire, la morale, c'est le permis et le défendu. Donc, l'attestation qui vous permet de sortir en ce moment, c'est typiquement une attestation morale. On ne cherche pas d'abord à donner du sens, si vous voulez. Et on...
Ça a coupé.
On a perdu quelqu'un, là.
Ah, mais... on a perdu. Ah, il est revenu.
C'est-à-dire que la morale exclut le sens, parce que si je prends l'exemple de l'attestation dérogatoire, hein, vous voyez bien que derrière le permis et le défendu,
on l'a perdu.
Ah. Okay.
C'est-à-dire on comprend. Le sens de l'attestation, c'est quoi ? Ben, c'est se protéger soi-même et protéger les autres. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire dans la différence entre morale et éthique. La morale, dans cette définition-là, parce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de définitions, la morale et l'éthique. Hein, bon. Mais dans cette définition-là, la morale donne un sens, une loi, un permis, un défendu, mais elle s'appuie ou elle recherche un sens. Pour reprendre cet exemple de l'attestation, le sens, c'est qu'on se protège les uns les autres en ne sortant pas ou en limitant nos sorties. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret à partir de cette attestation. Hein. Mais il y a plein de définitions qui sont, selon les auteurs que vous consultez, il y en a plein. Comme je vous l'ai dit dans mon texte, je crois, celle-ci, au moins, elle est pratique, elle est vraie et elle est reconnue par beaucoup de gens. La morale, c'est la loi. L'éthique, c'est le sens, c'est le but. Voilà.
Et pour poursuivre la question, donc c'est Georges, hein, pour poursuivre la question d'Antoine par rapport à cette question morale-éthique, oui. En fait, il semble, bon, même si vous donnez une définition et puis en plus vous dites qu'il y a d'autres définitions, le point quand même fort qui apparaît, c'est que finalement, c'est relativement conventionnel et qu'en réalité, c'est une mode, c'est comme ça qu'on a pris l'habitude de fonctionner. Est-ce que,
oui. Donc,
en plus, vous le dites, la morale est plutôt dévalorisée dans ce cadre. En prenant votre définition, faut-il parler de morale chrétienne ou d'éthique chrétienne ? Parce que justement, le christianisme a fait passer, si je puis dire, entre guillemets, l'esprit des lois, à la loi de l'esprit, où il n'y a plus de règles précises de données. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt l'éthique.
Oui. Alors, oui, il y a très clairement un effet de mode. C'est certain que, vous voyez bien, je donne souvent comme exemple... il n'y a plus que les catholiques de morale, en fait. Hein. dans les séminaires pour les futurs prêtres, dans les facultés de théologie, etc. On parle encore souvent de morale. D'ailleurs, on parle de théologie morale. La théologie morale, c'est une branche constituée de la théologie. Bon. Mais dans le monde sécularisé qui est le nôtre maintenant, en tout cas en Europe, on parle beaucoup plus d'éthique parce qu'il y a un mode, un effet de un coup de jeune, si vous voulez. D'ailleurs, parfois, ça revient strictement à la même chose. Mais et le vocabulaire est plus tendance, si vous voulez, du côté de l'éthique, c'est certain. Alors, vous avez raison de poser la question, est-ce qu'il y a une ou des éthiques chrétiennes ? C'est une question, en fait, qui est assez difficile. Ma position, c'est, je pense qu'on peut dire qu'il y a des éthiques chrétiennes, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a une éthique par église chrétienne. On peut déjà poser ça comme règle, hein, c'est-à-dire il y a une éthique par église. L'église catholique, les églises protestantes, et il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Les églises orthodoxes, en plus, qui sont structurées différemment de nous, n'est-ce pas, ont chacune une éthique. Alors, il y a je dirais le socle est commun, ça va de soi, c'est l'église indivise, c'est Jésus-Christ, etc. Mais au fil de l'histoire, ces églises-là ont pris des positions sur tel ou tel sujet, etc., qui finit par accréditer l'idée qu'en effet, il y a des éthiques chrétiennes et qu'on peut parler d'éthique chrétienne au pluriel. Vous voyez, par exemple, sur la bioéthique, les positions des catholiques, des protestants ou des orthodoxes ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on peut, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a des éthiques. N'hésitez pas à réagir. Hein, Alors ensuite, il y a évidemment le domaine que je n'ai pas... Vous avez esquissé à la fin de votre question hein, en disant il y a la loi de l'esprit, etc. Alors là, on entre dans le domaine de la grâce. Hein, c'est-à-dire que la morale ne se... c'est toute la dialectique de saint Paul que j'ai dû évoquer d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que la morale fléchit devant la grâce. Enfin là, c'est toute la dialectique de saint Paul qui s'est déployé dans l'histoire aussi bien avec Saint Augustin, la question janséniste, le luthéranisme, enfin justement le schisme, les hérésies protestantes, enfin maintenant l'hérésie, etc. Mais voilà, hein, donc c'est la dialectique effectivement loi et grâce. Mais dans le domaine qui est le mien, alors j'aurai l'occasion de redire que on ne peut jamais penser la morale en dehors de la grâce, jamais. Et dans les cours qui vont suivre, j'essaierai de vous montrer que à chaque fois qu'on sépare la morale de la grâce, on se plante. La théologie s'est toujours plantée quand elle a fait ça. Et quand on coupe la morale de la grâce, pour paraphraser l'Évangile, on ne fait pas mieux que les païens, hein, parce que la morale n'est comme je répondais à Antoine tout à l'heure, hein, la morale, c'est un code de la route. Le christianisme, c'est tout autre chose qu'un code de la route. Voilà. Mais voilà. Hein. Première réponse à votre question.
Vous pourriez développer un peu, là, séparer la morale de la grâce. Je ne comprends pas trop.
Oui. Alors, c'est ce que je vais essayer de... C'est un point... important que je vais essayer de montrer dans les cours qui suivent. Oui. C'est-à-dire, bon, je vais essayer de développer avec vous certains aspects assez essentiels de l'histoire de la morale, parce que, comme je l'ai dit dans mon petit papier, là, je pense quand même que c'est l'histoire qui nous éclaire le mieux sur la situation aujourd'hui. Hein. Et vous verrez... une des articulations majeures de cette histoire que je vais faire par au grand galop, hein, une des articulations majeures, c'est que la morale dans l'histoire est devenue, à un certain moment, c'est coupé du don de Dieu. Hein. C'est quoi la grâce ? C'est le don de Dieu. Bon, c'est, et on a fait, la morale, si vous voulez, c'est close sur elle-même, Notamment, j'aurai l'occasion de développer à partir du XIVe siècle. Hein, la morale s'est de plus en plus close sur elle-même et elle est devenue une étude de cas, hein, ce qu'on a appelé la casuistique, la morale casuistique. C'est une morale qui a beaucoup fonctionné en vase clos, coupée de la source évangélique, si vous voulez, coupée de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Voilà. Et donc, si on refait ça aujourd'hui, et parfois on le refait sans s'en apercevoir, hein, c'est comme ce Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, hein, quand on le refait aujourd'hui, eh bien, on bascule dans la sécularité contemporaine, si vous voulez. Mm-hmm. Voilà. Mais ça, j'aurai l'occasion vraiment de le développer, vous verrez, parce que mon propos, c'est de partir de ma méthode, c'est de partir de Vatican II. Vous savez, on parle beaucoup des essais maintenant randomisés en double aveugle. Hein. Bon, eh bien, ma méthode à moi, c'est de partir de Vatican II, parce que Vatican II est le point de bascule au XXe siècle pour les catholiques que nous sommes, d'accord. Et à partir de Vatican II, réinterroger le patrimoine dont nous sommes issus et témoins. C'est-à-dire la Bible, ensuite les pères de l'Église, le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge avec essentiellement Thomas d'Aquin, n'est-ce pas ? Et puis ensuite l'époque moderne. Et l'époque moderne, ça commence très tôt, hein, ça commence dès que saint Thomas est mort, finalement, pour l'histoire de la théologie, on a quitté saint Thomas juste après la mort de saint Thomas, hein. Et les éthiques qui sont les nôtres aujourd'hui, y compris qui sont les nôtres dans le monde du travail, la finance, enfin, et notre mode de vie quotidien, sont des éthiques modernes. Modernes, et j'essaierai de dire en quoi elles sont modernes et en quoi elles se sont très très vite distinguées de Thomas d'Aquin. Hein. Thomas d'Aquin, c'était une morale du bonheur. Hein. Saint Augustin, c'était encore une morale du bonheur. Alors, c'est le bonheur en Dieu. Hein. Mais à partir du XIVe siècle, vous allez voir, si je caricature à outrance, je dirais que le Dieu de Jésus-Christ est pratiquement devenu un prétexte. On continue à faire de la théologie, on fait de l'étude de cas, on fait des cas de conscience, mais on se soucie de moins en moins du Dieu de l'Évangile. Donc, j'aurai l'occasion de développer. Et vous verrez cette progression, je pense, dans cette petite histoire de la théologie morale que je vais vous proposer. Et l'articulation que vous avez, sur laquelle vous m'avez questionné, c'est-à-dire grâce et morale, vous verrez que c'est l'articulation majeure et que cette articulation, eh bien, elle a été rompue dès la fin du XIIIe siècle.
D'accord. Ok.
Et dans le plan, vous mettez un concile enfin applicable. Et dans le détail du texte, vous dites que le concile n'a pas pu aborder ces sujets-là, en fait, parce que ça s'est passé vers la fin. Et puis vous dites aussi que Paul VI n'a pas accordé de temps à ces sujets-là.
Oui.
Et en même temps, ce qui s'est passé après, ça correspond à une évolution majeure. C'est un peu la question que je me suis posée en lisant.
Oui, c'est une évolution majeure, mais c'est une évolution que les théologiens, donc mon hypothèse de lecture de l'histoire du concile, même maintenant assez bien historien, l'hypothèse que le concile Vatican a été arrêté par Paul VI avant de traiter les questions de morale. Ça avait beaucoup chauffé déjà, ils se sont déjà beaucoup engueulés, excusez-moi, mais bon, il y a eu la liturgie avec le schisme, il y a eu la liberté religieuse, il y a eu un halte au feu, si vous voulez, par Paul VI, et on n'a pas traité le renouvellement de la théologie morale. Pas vraiment. Hein. De sorte que la théologie morale que vous voyez dans le Concile, à part Gaudium et Spes, et puis, alors c'est majeur, hein, Gaudium et Spes, c'est une constitution, donc c'est un des plus hauts textes, enfin, c'est le plus haut niveau d'autorité d'un texte du Concile, mais en dehors de cette grande constitution qui a beaucoup vieilli, hein, c'est-à-dire si vous reparcourez Gaudium et Spes pendant le confinement, vous verrez que c'est une constitution qui est très datée. Hein, on voit passer, on voit la guerre froide se dérouler finalement, hein, c'est le début des années, la première partie des années 60. Bon. Cette conscience a beaucoup vieilli. Et les autres aspects de morale du texte, du concile, c'est-à-dire morale familiale, morale sexuelle, ça ne change rien. C'est une répétition de ce qu'on sait déjà. Bon. Paul VI a tout arrêté là. Hein. Il a clos le concile. Puis après le concile, vous avez plusieurs encycliques morales que j'ai citées dans mon papier, mais qui ne renouvellent rien. Hein, qui sont vraiment comment dirais-je, il n'y a pas d'aggiornamento de la théologie morale dans le Concile ni dans les textes du magistère après. Donc, mon hypothèse, c'est que ce sont les théologiens qui ont fait le job, pour l'essentiel. Je citais en France Xavier Thévenot, qui a été un prof longtemps à la cathédrale de Paris. Avant lui, figure éminente aussi, René Simon, qui était d'ailleurs son professeur, enfin... et puis plein d'autres théologiens, théologiennes. Et évidemment, dans l'ambiance du Concile, c'est aussi bien des clercs que des laïcs, des hommes que des femmes. Et donc, ce sont les théologiens qui ont fait le travail, en fait. Hein. Et pour arriver à la réponse concrète à votre question, après ce long préliminaire, oui, il y a évidemment des domaines dans lesquels ça a beaucoup changé les choses, c'est-à-dire... Si, par exemple, si je prends l'exemple que j'ai donné dans mon papier, c'est ne plus tout miser sur la nature, hein, sur la loi naturelle, mais se dire que la construction d'une vie morale, c'est une construction en devenir, c'est une construction historique, c'est une construction, j'aurai l'occasion de le dire, mais qui articule à la fois l'universel, le particulier et le singulier. Hein, et puis, par exemple, sur la sexualité, les théologiens ont pu dire que ce n'était pas seulement une question de nature humaine, mais c'était également une question de langage. Hein, c'est-à-dire qu'on a introduit dans la théologie morale toutes les disciplines des années 60 et 70 qui avaient du succès à l'époque, toutes les sciences humaines et sociales. Et ça a énormément brassé, si vous voulez, les choses. Alors, ça a donné parfois des résultats un peu étonnants, un peu, voilà. Mais c'était une période, en fait, très, très, très foisonnante. C'est la deuxième partie des années 60, les années 70, les années 80. Et ça s'est beaucoup calmé, si vous voulez, dans les années 90. C'est-à-dire que la fin du pontificat de Jean-Paul II et le pontificat de Benoît XVI, bon... était une ambiance moins créative pour la théologie morale. Le gros de la créativité de la théologie morale, en tout cas pour les pays que je connais, c'est-à-dire l'ère francophone, je connais un peu d'autres aussi, mais surtout l'ère francophone, c'est quand même les années 70 et 80. Hein. Après, 90 encore si on veut, mais après c'est plus modeste, on va dire. Hein. C'est plus modeste. Voilà. Et donc, c'est vrai pour des questions d'éthique sexuelle familiale, c'est vrai pour l'éthique économique et sociale, c'est vrai pour l'éthique... Alors, je fais quand même une réserve à ce que je vous dis là. Le magistère a eu et a toujours des positions très, on va dire, audacieuses, même novatrices, dans le domaine de la morale économique et sociale. Hein. Ça, toujours. C'est beaucoup moins vrai en ce qui concerne la morale familiale et sexuelle. Beaucoup moins. Hein. C'est ce qui a fait dire à un théologien jésuite qui est mort malheureusement, que j'aimais bien, qui est mort il y a quelques années, que le père Calvez disait qu'il y a une morale à deux vitesses dans l'Église catholique. Il y a la vitesse de la morale économique et sociale. Alors là, ça va à toute allure. Puis maintenant, également, l'écologie, hein, mm-hmm. où le magistère a été pionnier sur les questions écologiques, il a été pionnier dans beaucoup d'évaluations économique et sociale. Il y a le grand texte d'encyclique sociale et économique du magistère, Jean-Paul II, par exemple, mais Paul VI avant, avec Populorum Progressio, vous voyez. Donc, sur ces questions-là, le magistère s'autorise à aller assez loin, à critiquer beaucoup, je dirais, les retards ou les impasses des sociétés sécularisées. Hein. Mais il y a une deuxième vitesse, et là, le magistère va à une toute petite vitesse, hein, qui est les questions de morale familiale et sexuelle. Donc, il y a deux vitesses, hein. C'est assez net. Et donc, ça colore aussi le travail que font les théologiens. Hein. Les théologiens, ce n'est pas seulement des gens qui vont illustrer le magistère ou commenter le magistère, c'est des gens qui participent à la réflexion critique au profit du magistère, donc au profit de toute l'Église même d'abord. Hein. Voilà.
Merci.
Je vous en prie.
Vous avez dit que, donc, après la mort de Thomas d'Aquin, le thomisme était mort, on a beaucoup fait de casuistique. Le fait de parler de morale ou d'éthique par domaine, familial, social, etc., environnemental, est-ce que c'est à un autre degré, c'est pas une façon de faire de la casuistique, et n'y a-t-il pas des choses beaucoup plus fondamentales que ces domaines en soi? Ou, non. Autrement dit, est-ce que ces choses fondamentales ne s'appliqueraient pas à ces domaines? Et notamment, oui. Il y a eu quand même la néo-scolastique. Et oui. en réalité dans la morale de la magistère, je pense que fondamentalement, même si on ne revient pas là-dessus systématiquement, on ne met pas ça en avant, en réalité, le thomisme, et par là l'aristotélisme même, est présent. La notion de finalité, la notion de sens est présente. Et je ne vois pas pour quelle raison ces notions de sens et de finalité, au sens même d'Aristote, ne seraient pas valables aujourd'hui dans tous les domaines.
Oui, oui. Alors rassurez-vous, elles sont très valables. Hein. Il faut bien comprendre, là encore, l'histoire de la morale va nous faire du bien pour reposer les fondements, hein, parce que les branches actuelles de la morale, si vous voulez, c'est très contemporain, ça. C'est bien pour les séminaires de théologie où on fait un morale fondamentale, puis après on fait les morales spéciales.
Encore 8 heures.
Je verrai.
8 minutes.
Après, c'est justement, c'est la définition du thomisme. Hein. C'est le thomisme, enfin, c'est une des définitions. Le thomisme, c'est Saint Thomas. Mais il se trouve que le thomisme s'est beaucoup écarté des intuitions premières de Saint Thomas d'Aquin. Hein. Mais vous avez des siècles et des siècles de thomisme après Saint Thomas. Ce que vous appelez la néo-scolastique, y compris jusqu'au pape récent. Le pape Jean-Paul II était considéré comme thomiste, très thomiste, mais c'était un thomisme, si on prend Jean-Paul II, il y a eu des travaux là-dessus très intéressants, le thomisme de Jean-Paul II a très peu de choses à voir avec le thomisme de Saint Thomas, enfin le thomisme, c'est qu'à le dire, du fondateur. C'est très très loin. Donc il y a une cassure, j'essaierai de vous la situer, il y a une cassure très forte dès après la mort de Saint Thomas, hein, mais le thomisme a eu de multiples branches après Saint Thomas, mais des branches beaucoup plus juridiques, beaucoup plus casuistiques, en effet, beaucoup plus cérébralisées, beaucoup plus, et surtout séparées de la vie concrète des gens, séparées de la pastorale, voilà, c'est ça. Mais on est bien d'accord, hein, que les branches que nous connaissons actuellement, le cours du CIF, comme le cours des séminaires, etc., sur morale spéciale, c'est inconnu à l'époque de Saint Thomas, c'est pas comme ça qu'on l'aurait envisagé, et a fortiori à l'époque des Pères. Ça, je vous dirai pourquoi. Hein, je vous dirai pourquoi. Donc aujourd'hui, c'est apéritif ce que je vous dis, mais pour bien répondre à votre question, hein, c'est certain que beaucoup de gens hors Église se servent du thomisme sans le savoir, et d'Aristote sans le savoir parfois. Hein. Mais dans l'Église, le thomisme a eu des devenirs tout à fait différents, hein, et qui l'ont écarté, à mon sens, de de Thomas d'Aquin lui-même. Ah, il nous reste 6 minutes.
Oui.
Voilà, n'hésitez pas à mettre à profit ces 6 minutes. Ah oui, peut-être sur les instruments, ne soyez pas étonnés, hein, comme j'ai écrit ce texte, et puis ne soyez pas étonnés s'il y a une petite discordance entre la bibliographie. Non, la bibliographie, elle est, il n'y a pas de problème, hein, mais sur les plans que vous allez lire, bon, il y aura un petit décalage entre le plan et puis le texte que je vous donne à chaque fois et nos entretiens là, par visioconférence. Vous suivrez à peu près, hein, ça va, mais il y aura un petit décalage, donc il ne faut pas vous étonner. Voilà, j'essaie d'adapter le cours de l'an dernier, qui était le cours, j'allais dire, normal, en présentiel, et puis ce cours en visioconférence, avec le document, si vous voulez, qui fait le lien. Voilà. Donc il y a une petite discordance, ne vous en étonnez pas, ça devrait suivre. Voilà.
Laurent, est-ce qu'on traitera dans ton cours de questions précises, actuelles, de bioéthique, oui, de transhumanisme, de gender,
oui,
de...
Oui, à la fin. À la fin. À la fin. On peut même, d'ailleurs, on peut même imaginer une séance de visioconférence, hein, peut-être la dernière, qui soit réservée aux questions d'actualité. C'est ce que je fais souvent en... La dernière, en général, j'ai le temps de le faire aussi, c'est-à-dire que la dernière séance, je conclue et puis je réserve aux questions d'actualité préparées par les étudiantes et les étudiants. Alors, ça, on peut le faire, oui. Je vais en parler. Les dernières années, j'ai beaucoup parlé du gender. Alors, on m'a dit de moins en parler maintenant, donc j'en parle moins. Mais cette année, on a, par exemple, on a la question de l'épidémie. Bon, la question de l'épidémie... est une question qui est une question d'éthique et d'éthique chrétienne majeure qui soulève absolument toutes les questions d'éthique, hein, sont présentes dans le vécu et la gestion d'épidémie que nous traversons. Donc on est hélas en plein dans l'actualité, hein. Par exemple, les médicaments, hein, on est sur les protocoles du médicament. Donc on entend tous les jours, les gens parlent des protocoles des médicaments, et vous avez maintenant en France 66 millions d'épidémiologistes qui parlent de protocoles de médicaments. La base d'un protocole de médicaments, c'est ce qu'on appelle la loi du double effet, qui est une loi en morale de base, c'est-à-dire un médicament, il y a un effet qu'on appelle l'effet indésirable, hein, ou l'effet... Alors, est-ce que vous vous autorisez à prendre de la chloroquine? Si vous savez que vous avez un double effet sur le cœur, par exemple. Donc, est-ce qu'éthiquement, un médecin peut le prescrire, et vous, est-ce que vous pouvez le prendre en conscience? Vous voyez, ça, c'est une question d'éthique hyper d'actualité. Bon, ensuite, il y a la question qui est une question immense. Je vous renvoie, par exemple, vous pouvez aller sur des petites vidéos en ce moment de Gaël Giraud, hein, l'économiste Gaël Giraud, qui est de cette épidémie sur la mondialisation économique. Voilà. Donc là, on est peut-être à la fin d'un... peut-être que Bernard aura l'occasion de le reprendre, ça, de le développer. Hein. On est peut-être à la fin d'un modèle ou de certains éléments de ce modèle. L'éthique de... C'était brièvement coupé. Ben voilà, je disais que l'éthique du modèle capitaliste qui est en train de peut-être de s'effondrer ou disons d'être en crise, pour l'instant on n'en sait pas plus.
C'est une éthique du contrat.
Ouais.
Combien?
Moins d'une minute.
Tu le vois? Alors oui, c'est une éthique. Alors on va se dire au revoir, hein, mais c'est une éthique du contrat. Nous sommes beaucoup dans l'éthique du contrat. Donc, prends ça la prochaine fois. Je vous envoie un texte pour le cours suivant et on relance ça donc la semaine prochaine. C'est ça?
Merci beaucoup.
N'hésitez pas à préparer au fur et à mesure les questions. Hein. Merci.
D'accord.
Au revoir.
Dis Aude, on pourra voir en ligne ces cours de l'année dernière ou pas? sur la biblio, enfin sur le dans la bibliothèque, je veux dire.
Normalement, vous avez les cours et la biblio sur le site du CIF. Hein.
Oui, mais ce que vous nous avez donné là pour cette semaine, ça correspond vraiment à ce que vous auriez dit en présentiel ou c'est
un c'est synthétisé. Non, c'est plus synthétisé. En présentiel, ça, c'est sûr que j'en dis un peu plus.
Ça, bah oui, c'est ça, oui, en une heure et demie, oui, c'est sûr.
Ouais.
Ok. D'accord.
Aude, pour la prochaine fois, c'est le même lien pour vous rejoindre.
Non. Jean-Yves, c'est Jean-Yves qui va créer les liens.
D'accord.
À chaque fois, c'est un nouveau lien.
Voilà. D'accord.
Et je trouve que vous avez peut-être eu du mal à vous connecter en avance. Et la prochaine fois, on se débrouillera pour que vous puissiez accéder à la réunion, même si Jean-Yves n'est pas là.
C'est pour ne pas gâcher.
Ok.
Ouais. Jean-Yves, comme c'est lui qui anime, il faut qu'il se connecte à la dernière minute, sinon on mange les 40 minutes.
D'accord.
La prochaine fois, vous arrivez 5 minutes avant, vous dire bonjour, il n'y a pas de problème.
Bon, courage à tous. Hein.
Merci.
Au revoir. Merci.